Washington. À très bientôt.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 24 juillet 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le retrait des soldats américains du Niger, commencé début juillet, sera achevé début août. En Mauritanie, l'Internet a été rétabli mercredi après une coupure de 22 jours liée aux manifestations contre la réélection de Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani à la tête du pays. Le président kényan William Ruto a nommé quatre figures de l'opposition dans son gouvernement élargi pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays. Et dans l'autre partie magazine, des groupes de défense des droits de l'homme accusent les autorités françaises de procéder à un nettoyage social avant les Jeux Olympiques de Paris. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En RDC, 25 accusés, dont 20 absents, sont jugés depuis ce matin à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23 dans l'est du pays. Le principal prévenu en fuite est Corneille Nanga, ancien président de la commission électorale de RDC, qui a annoncé en décembre dernier, depuis Nairobi, la création d'un mouvement politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, incluant le M23. Le retrait des soldats américains du Niger, commencé début juillet, sera achevé début août, a annoncé le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique. Ce retrait est une exigence du régime militaire au pouvoir à Niamey qui a remis à plat ses partenaires internationaux. Les précisions avec Nani Talani.
Le retrait se passe bien. Nous sommes en avance grâce à l'excellente coordination que nous avons avec nos homologues nigériens. Je m'attends à ce qu'il soit terminé début août, a déclaré le général Kenneth Ekman, chargé de coordonner ce retrait lors d'un point de presse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les soldats américains étaient engagés au Niger pour lutter contre les djihadistes. Les conséquences pour la sécurité régionale sont très inquiétantes. La menace extrémiste violente au Sahel grandit et s'étend vers les pays voisins, a précisé M. Ekman. Interrogé sur un éventuel redéploiement en Côte d'Ivoire, il a affirmé que Washington souhaite travailler avec les forces ivoiriennes dans leur base, là où elles opèrent déjà, pour solidifier les partenariats qui existent. Le général Ekman a toutefois démenti des informations selon lesquelles les États-Unis allaient construire une base à Odjene, dans le nord-ouest ivoirien.
16 détenus de la prison de Conakry en Guinée ont été libérés mardi après avoir passé entre 15 et 16 ans de détention sans jugement, a annoncé le ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba. Ils étaient emprisonnés depuis toutes ces années pour des délits divers, a dit sans plus de précision le ministre qui est venu assister à leur remise en liberté. En Mauritanie, l'Internet a été rétabli aujourd'hui après une coupure de 22 jours. L'interruption était liée aux manifestations après l'annonce de la réélection de Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani à la présidence. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le rétablissement des données mobiles intervient 8 jours avant l'investiture du président Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani, réélu pour un second mandat avec 56,12% des voix, qui aura lieu le 1er août en présence d'une quarantaine de délégations, dont des chefs d'État. Le 1er juillet, les manifestations avaient fait officiellement 3 morts à Kaïdi, dans le sud de la Mauritanie, 4 selon les familles et les médias locaux. Des actes de pillage et des dizaines d'arrestations ont été rapportés quelques heures après l'annonce des résultats provisoires donnant à M. Ghazouani une large victoire dès le premier tour de la présidentielle du 29 juin. Les autorités n'avaient pas communiqué dans l'immédiat sur la coupure de l'Internet des données mobiles, mais le porte-parole du gouvernement a dit par la suite qu'elle était nécessaire pour des raisons sécuritaires. Les restrictions d'accès à Internet sont devenues courantes à travers le monde de la part de gouvernements confrontés à des protestations.
Au moins 15 personnes sont mortes et plus de 190 sont portées disparues après le naufrage lundi d'une pirogue de migrants au large de la capitale mauritanienne, a annoncé mercredi l'Organisation internationale
pour les migrations. Selon l'OIM, environ 300 personnes sont montées à bord d'une pirogue en Gambie et ont passé 7 jours en mer avant que le bateau ne chavire près de Nouakchott le 22 juillet 2024. 120 personnes ont été secourues par les gardes-côtes mauritaniens, ajoute l'OIM dans un communiqué. Le président kényan William Ruto a nommé 4 leaders de l'opposition dans un gouvernement élargi pour tenter d'apaiser la contestation. Nathalie Barge.
Ses opposants du mouvement démocratique Orange sont John Badi, nommé au ministère des Finances, James Opio Wandayi à l'énergie et au pétrole, Hassan Alidio aux mines et Wycliffe Oparania au développement des coopératives et petites et moyennes entreprises. Ils viennent s'ajouter à 10 autres déjà soumis au Parlement pour approbation. Un seul poste reste à pourvoir, celui du ministre de la Justice. La nomination de ses proches de Raila Odinga vient fissurer la coalition d'opposition Azimio, dont des leaders ont annoncé qu'ils ne participeraient ni ne soutiendraient le gouvernement élargi. Le président avait limogé le gouvernement le 11 juillet, à l'exception du ministre des Affaires étrangères, en réponse à la contestation déclenchée par le projet de budget instaurant de nouvelles taxes. Après le retrait de ce projet, William Ruto a annoncé une hausse des emprunts d'environ 1,2 milliard de dollars et une baisse des dépenses d'1,3 milliard. La dette publique du Kenya s'élève à plus de 75 milliards de dollars, soit 70% du PIB.
Toujours au Kenya, des dizaines de représentants des médias ont participé mercredi à des rassemblements dans plusieurs villes du pays pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des menaces et des intimidations de la part des autorités, en particulier après les attaques de la police contre des journalistes lors des manifestations anti-gouvernementales. Le Conseil des médias du Kenya, organisme financé par l'État, s'est dit profondément préoccupé par les détériorations des relations entre les médias et le gouvernement, affirmant dans un communiqué publié lundi que cela a donné lieu à des menaces injustifiées. En Ouganda, des dizaines de personnes ont été arrêtées mardi à Kampala et placées en détention pour avoir bravé une interdiction de manifester contre la corruption, parmi lesquelles des figures du mouvement. En Éthiopie, les opérations de secours se poursuivent mercredi, 48 heures après un glissement de terrain qui a tué près de 230 personnes dans une zone isolée dans le sud du pays. Les agents humanitaires acheminent de l'aide et 14 000 personnes doivent être évacuées d'urgence. Le dernier bilan, publié mardi après-midi par les autorités de la zone administrative de Gofa, fait état de 229 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden donne ce soir ce qui pourrait être son dernier discours depuis le bureau ovale pour expliquer les raisons de son retrait de la présidentielle de novembre et nier qu'il va passer 6 mois comme un président en fin de mandat. Le point avec Eric Manelakiza.
Alors que la tension se tourne déjà vers un duel imminent entre la vice-présidente Kamala Harris et Donald Trump, Biden va insister dans son allocution sur le fait qu'il a encore du travail à accomplir malgré sa décision historique de se retirer. Le démocrate de 81 ans a annoncé sur X qu'il discuterait de ce qui nous attend et de comment il va finir le travail pour le peuple américain lors de son discours télévisé en prime time à 20h heure de Washington, 0h en temps universel. Ce discours, qui devrait durer entre 8 et 10 minutes, sera le premier de Biden depuis qu'il s'est retiré de la course dimanche après des semaines de pression à la suite d'une performance désastreuse lors d'un débat contre Trump. Alors qu'il s'isolait à sa résidence dans le Delaware en raison du Covid, il avait promis lors de son annonce de retrait qu'il donnerait aux Américains plus de détails sur sa décision. Les Républicains ont demandé à Biden de démissionner, affirmant que s'il n'est pas apte à se représenter, il n'est pas non plus apte à servir en tant que président. Biden insiste qu'il a encore beaucoup à offrir, se concentrant particulièrement sur l'économie et sur l'obtention d'un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.
Les États-Unis ont annoncé mercredi une série de sanctions visant une demi-douzaine de personnes ainsi que 5 entreprises chinoises accusées par Washington de soutenir les programmes de missiles balistiques et spéciales nord-coréens. Selon un communiqué du département du Trésor, les personnes et entreprises visées sont accusées d'avoir aidé Pyongyang à se fournir en composants nécessaires aux deux programmes, ce qui serait une violation flagrante des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toujours aux États-Unis, le gouvernement américain va abonder à hauteur de 667 millions de dollars un fonds destiné à financer des investissements pour renforcer les capacités de préparation aux pandémies, a annoncé mercredi la secrétaire au Trésor Janet Yellen. À présent, la minute éco avec Nanik Talami.
La compagnie pétrolière chinoise CNPC annonce avoir suspendu tous les projets de construction sur le site pétrolier d'Agadem dans l'est du Niger après des attaques terroristes dont la dernière en date a eu lieu le 12 juin, tuant 6 soldats chargés de surveiller un important oléoduc acheminant le pétrole d'Agadem vers le Bénin. Les employés du site ont été mis en congé jusqu'à ce que la situation sécuritaire s'améliore. Ils recevront un salaire correspondant à la norme de congé. Au Nigeria, la raffinerie Dangote atteindra une production de 550 000 barils par jour cette année, ce qui équivaut à 85% de sa capacité. Mais elle doit augmenter ses importations de brut en raison de l'insuffisance des approvisionnements nationaux, a déclaré l'usine. Pour terminer, le différend en Namibie qui oppose les copropriétaires de la société SDM sur l'accès aux terres diamantifères autour de l'Idéris risque de retarder de grands projets énergétiques et dissuader les investisseurs d'après l'État et les entreprises alors que les efforts s'intensifient pour résoudre le conflit. Les projets incluent une centrale électrique au gaz de 800 MW, un projet d'hydrogène vert de 10 milliards de dollars, deux parcs éoliens et un pipeline. La Namibie cherche à accélérer sa production pétrolière suite à d'importantes découvertes offshore par Total Energy, Shell et Galp.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, levée du préavis de grève des danseurs.
Le syndicat des artistes interprètes SFA-CGT a levé ce mercredi le préavis de grève des danseurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris vendredi, après avoir obtenu une victoire partielle sur ses revendications, a-t-il affirmé dans un communiqué. Cette décision a été prise après une dernière proposition de la part des organisateurs Paris 2024 de revaloriser la rémunération des droits voisins dus au titre de la diffusion télévisuelle du spectacle. Une proposition validée par les artistes, a ajouté le syndicat.
Et puis Coco Gauff et LeBron James seront les porte-drapeaux de la délégation des États-Unis.
Coco Gauff, 20 ans, l'une des stars du tennis mondial, sera la porte-drapeau de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 vendredi sur la scène, où elle partagera son rôle avec le basketteur LeBron James de 19 ans, son aîné. Gauff, numéro 2 mondial et lauréate de l'US Open l'an dernier, a été désigné mercredi par le comité olympique américain, deux jours après l'annonce concernant LeBron James, la plus grande star actuelle de la NBA.
Les épreuves ont commencé avec deux matchs de foot masculin.
Les compétitions des JO de Paris 2024 ont débuté ce mercredi à 13h en temps universel avec le coup d'envoi de deux matchs du tournoi de football masculin. Au Parquet des Princes à Paris, l'Espagne affronte l'Ouzbékistan dans le groupe C, tandis que l'Argentine défie le Maroc à Saint-Étienne dans le groupe B. 6 autres matchs sont prévus dans l'après-midi et la soirée, dont l'entrée en lice de la France contre les États-Unis à 21h et en Mali-Israël sous haute surveillance policière sur fond d'appel à la mobilisation contre la présence de la délégation israélienne en France à cause de la guerre à Gaza.
Et enfin, Nadal et Alcaraz se réjouissent de jouer ensemble le double.
Rafael Nadal, 38 ans, ex-numéro 1 mondial, et Carlos Alcaraz, 21 ans, Actuel numéro 3 aborde avec beaucoup d'enthousiasme le double des Jeux Olympiques qu'ils vont disputer ensemble à Roland-Garros sous le tournoi de tennis. Des Jeux commencent samedi. Absent depuis l'Open d'Australie 2023, soigné une blessure à la voûte plantaire, Nadal s'était à nouveau blessé lors de son tournoi de rentrée en janvier dernier à Brisbane. Il est revenu à la compétition fin avril à l'occasion de la saison européenne sur terre battue, mais n'a pas totalement convaincu depuis. Son jeune coéquipier qui a triomphé en simple à Roland-Garros début juin, avant de l'emporter aussi à Wimbledon, a déclaré que c'était un rêve d'être associé à Nadal.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Onezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le 21e forum AGOA de coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique s'ouvre aujourd'hui à Washington. Pour répondre aux critères d'éligibilité, les pays doivent progresser vers une économie de marché, l'état de droit et le respect des droits humains. Le dispositif AGOA prévoit une taxation préférentielle pour les produits africains, entre autres avantages. Joseph Mpalanga, fondateur des boissons Makassi en RDC, est parmi les représentants du secteur privé faisant le plaidoyer de la reconduction de ce programme qui arrive à terme en 2025.
Nous voulons maintenir l'AGOA parce qu'elle permet à nous, comme ressortissants des pays africains, de faire du business entre nos pays et les États-Unis d'Amérique. Et ça nous permet aussi de créer des emplois dans nos pays. Alors si on arrêtait cela, c'est plusieurs familles qui vont plus pouvoir nourrir leurs enfants. Et l'AGOA, c'est un atout majeur pour nous parce que sans l'AGOA, on ne pourra pas faire cet libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique.
Ceci dit, les jus de fruits, on imagine, au niveau de l'exportation, il doit y avoir énormément de concurrence. Pourriez-vous nous dire un petit peu la particularité de ces jus de fruits ?
Nous faisons des fruits à 100% naturels. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de préservatifs. Mais la particularité pour moi, c'est le côté social. On appelle nos produits « juice in a mission », les jus en mission. Quelle mission ? Mission de changer la vie de ces femmes, certains d'entre eux qui sont financièrement dans la difficulté, et nous leur offrons l'opportunité. Tout le monde peut faire des jus, mais tout le monde ne peut pas changer la vie des gens.
Là, on parle toujours de petites structures en fin de compte. Est-ce qu'on peut voir plus grand aussi, voir une industrie prospérer dans ces lieux de la RDC qui sont très nombreux, où les gens produisent déjà au niveau artisanal, au niveau local? Est-ce que c'est dans vos objectifs à vous, en tant que chef d'entreprise?
Oui, c'est l'une de mes objectifs et de mes partenaires, d'installer des usines au niveau de la RDC pour qu'on puisse produire dans des quantités industrielles. Parce que nous ne pouvons pas toujours laisser tout de manière artisanale. C'est pourquoi, avec Makassi Human Business Club, nous avons créé cette dynamique qui va accompagner les femmes et nous allons amener la technologie pour qu'on puisse industrialiser ce qu'elles produisent.
Alors pour amener la technologie, vous avez parlé de partenaires, justement quel type de partenaires vous avez? Est-ce que vous avez des investisseurs américains qui sont intéressés pour ce type de projet?
C'est pourquoi je suis là aussi, c'est pour trouver ces partenaires américains qui sont intéressés à l'Afrique, qui sont intéressés à notre projet, particulièrement soutenir les femmes dans l'industrie. Parce que des fois, il y a des ONG qui y vont pour donner de l'aide. Mais ça ne suffit pas. Il faut aider ces femmes-là parce que c'est les femmes qui soutiennent les familles en RDC. C'est elles qui sortent le matin pour chercher comment se faire survivre la famille. Alors nous devons aider ces femmes à quitter ce niveau artisanal et les amener à l'industriel. C'est pourquoi nous sommes ici pour trouver ces partenaires intéressés, non pas seulement à faire l'argent, mais à changer les vies de millions de gens.
Joseph Mpalanga, chef d'entreprise congolais, répondait aux questions de Nathalie Barge. Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires, le tout loin des écrans et de l'oisiveté? C'est la question que certains parents se posent car pour beaucoup cela devient vite un casse-tête de trouver une activité pour son enfant. À Libreville, au Gabon, il existe une alternative, le club de lecture Mon Voyage. Le projet porté par des encadreurs pédagogiques bénévoles permet d'éveiller l'imagination des enfants, développer leur logique ou leur permettre de s'amuser. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangdé.
Donc à travers la lecture, j'ai déjà fini.
À la salle ou dans les jardins du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, les animateurs du club de lecture Mon Voyage disposent d'un espace convivial pour inciter les enfants à la lecture et pour leur apprendre à composer des œuvres littéraires. L'initiative d'Elena Fonon va au-delà d'un simple passe-temps de vacances.
À travers la lecture, on peut aller à la découverte du monde et de ses réalités. Et surtout, je voudrais souvent éloigner les enfants un temps soit peu des écrans pour permettre à ces derniers de développer leur imaginaire.
Depuis début juillet, la petite hôte de 10 ans se rend 3 fois dans la semaine à ce rendez-vous pour prendre part aux activités du club de lecture.
Au début, je ne lisais pas. J'imaginais les histoires de ma tête. Maintenant, maman Lina, comme c'est ma tante, elle m'a emmenée dans son club de lecture. Elle m'a fait apprécier la lecture. Nous avons fait une sortie. Nous avons vu comment la nature a été traitée et ça m'a vraiment révoltée. Ça m'a amenée à écrire une poésie que j'ai récitée devant tout le monde.
Pour cette 4e édition, le club compte près d'une trentaine de membres, âgés de 6 à 18 ans. Bien que relaxant, divertissant, pédagogique et public, c'est un environnement qui impose aussi une discipline de groupe. Jeannette Makiemba, éducatrice préscolaire.
Dans mon groupe là, nous avons ceux qui sont en première année, deuxième année jusqu'en troisième année. Vous voyez que c'est une tranche d'âge pas très facile. Il y en a qui ne savent pas lire, ils n'ont que 4 ans, 5 ans. Et il y a d'autres qui sont déjà en plein dans la lecture, en troisième année, en CE1. Donc vous voyez que c'est pas... Tous découvrent, mais les tout petits découvrent plus. Ils s'enrichissent plus, parce que ce n'est pas encore de leur âge.
Selon la promotrice du club de lecture Mon Voyage, l'apprentissage de la lecture devient un grand défi pour les enfants.
Le parent seul aujourd'hui n'est pas, ne peut pas assumer seul l'éducation, la réussite de son enfant. Il va falloir désormais impliquer immédiatement l'enseignant ou l'adulte. Déjà, c'est comme ça dans nos sociétés africaines. L'enfant appartient à toute la communauté.
Avec ce projet, Léna rêve d'une aventure qui inspire les structures d'animation culturelle à l'échelle nationale. Ismaël Obiancé pour VOA Afrique, Libreville.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur le coup de tonnerre politique aux États-Unis. Le retrait du président démocrate Joe Biden de la course à la Maison-Blanche après une semaine inouïe marquée par la tentative d'assassinat contre son prédécesseur républicain Donald Trump. La vice-présidente Kamala Harris, quasi assurée d'être désignée candidate par son camp, s'est d'ores et déjà lancée dans la bataille électorale. Que signifient tous ces développements pour le scrutin présidentiel du 5 novembre? Comment la planète suit-elle ces bouleversements qui ébranlent l'Amérique? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
La technologie est considérée partout dans le monde comme la meilleure alternative pour découvrir de nouvelles solutions et ouvrir un univers d'opportunités. Au Mozambique, deux jeunes innovateurs utilisent des ressources recyclées pour améliorer la vie de leur communauté. Un reportage de Amarilis Jules de Maputo, récit Blanche Sanou.
À l'ombre des manguiers, Nelio Mazivila, 17 ans, a construit un laboratoire de fortune où, à partir des débris de vieux gadgets, il répare des appareils électroniques et électroménagers. Nelio Mazivila dit que le désir de créer ses propres jouets l'a amené à se lancer dans l'électronique.
La plupart du matériel que j'utilise est constitué de débris provenant de vieux téléviseurs et amplificateurs. Mais si j'ai un besoin urgent de matériel, je me rends dans un centre qui vend et achète de la ferraille. À part ça, mes amis et voisins m'ont donné de vieux appareils électroménagers.
Mazifila dit que c'est grâce à une ampoule et une bobine d'induction magnétique qu'il a réalisé qu'il pouvait générer une énergie propre et durable, non seulement pour son propre laboratoire, sa maison, mais peut-être pour tout son quartier. Écoutons à nouveau Nelio Mazivila, un jeune inventeur mozambicain.
Le plus gros problème du monde aujourd'hui est l'énergie. Nous devons donc créer ces petites sources d'énergie renouvelable pour éviter d'utiliser des carburants. C'est pourquoi je produis ce type d'énergie propre et durable. L'appareil est un ondulateur qui inverse le courant continu d'une batterie en courant alternatif pour un usage résidentiel. Avec l'appareil que j'ai ici, je peux alimenter 3 à 4 maisons. Mais si on augmente la tension des panneaux photovoltaïques, il faut augmenter le nombre de batteries et augmenter le transformateur. L'appareil peut alors alimenter 3, 4 ou 5 blocs.
À quelques parties de maison du laboratoire de Nelio, un autre jeune homme de 17 ans, Clayton Michaké, a commencé son parcours d'invention en construisant des voitures miniatures et des robots, même si sa véritable passion était les drones. Ainsi, en utilisant des matériaux recyclés comme le fer et le carton, Clayton a créé son premier drone, mais il souhaitait qu'il soit utilisé pour de plus grandes causes. Ainsi, en utilisant des fibres de carbone et des systèmes 3D, un moyen de visualiser une action particulière à travers la vue d'une caméra, donnant le sentiment d'être là, il a développé un drone plus robuste et plus rapide qui pourrait être utile pour cartographier les inondations ou des zones à risque pour aider aux missions de sauvetage. Écoutons Clayton Michaké.
Les technologies se développent chaque jour et ce qui m'a aussi motivé, c'est de ne pas laisser le Mozambique à la traîne en termes de connaissances. Donc, comme j'ai des notions sur ce type de drone et sur les recherches qui sont faites dans d'autres pays, j'ai fini par créer quelque chose qui pourrait montrer qu'au Mozambique, il y a aussi des connaissances. Apparemment, ils y prêtent attention et c'est très bien car cela aidera le pays à faire un pas de plus.
Bien qu'il n'ait aucune éducation formelle et ne se soit jamais rencontré en personne, les deux jeunes innovateurs continuent de s'inspirer mutuellement via les médias sociaux. Alors que Nelio Mazivila espère que son invention permettra de résoudre la crise énergétique dans les régions éloignées, Clayton Michaké estime que son invention a le potentiel d'aider les promoteurs à choisir les bons terrains pour les projets de construction. Il espère désormais que les entreprises publiques et privées et les particuliers se manifesteront pour offrir un soutien financier et leur permettre d'encourager leur expertise et de valoriser leurs projets prometteurs.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des groupes de défense des droits de l'homme accusent les autorités françaises de procéder à un nettoyage social avant les Jeux Olympiques de Paris en se débarrassant des migrants, des travailleurs du sexe et d'autres personnes dans la capitale, mettant ainsi à mal les promesses de faire de ces Jeux les plus inclusifs de tous les temps. Le gouvernement affirme qu'il tente simplement de résoudre un problème de longue date. Le reportage de Lisa Bryant à Paris est relaté par Jean-Roger Billon.
C'est une opération de déguerpissement musclé d'un camp de migrants non loin de Paris aux premières heures de la matinée. Les squatteurs sont dans l'incertitude quant à l'avenir. Abdoulaye Sow est un immigrant de Guinée.
Ils ont dit de venir ici, ils vont nous faire loger. Ils sont venus pour ça. Comme il y a les Jeux Olympiques, on ne peut pas rester dans la ville ici. Ils ont dit qu'ils vont nous déplacer un peu. Quoi.
Ce type d'expulsion n'est pas nouveau. Les groupes de défense des droits de l'homme les ont déjà critiqués. Mais les militants s'interrogent sur l'ampleur et le calendrier de cette campagne en cours, qui intervient juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Milou Borsotti, médecin du monde.
Comment peut-on qualifier tout cela? Parce que ce n'est pas seulement cette semaine, ça a commencé bien avant. On appelle ça le nettoyage social de Paris, donc essentiellement à cause des Jeux Olympiques, de la volonté de vider le rue de toute misère et de toute pauvreté.
L'association caritative de Borsotti fait partie d'un réseau d'activistes appelé l'autre côté de la médaille. Elle affirme que des centaines de personnes ont été relogées dans les mois précédant les Jeux. Les migrants, mais aussi les Roms, les travailleurs du sexe et d'autres personnes subissent des pressions. Certains migrants auraient été envoyés dans des endroits éloignés de la capitale. Les autorités françaises affirment que ces migrants peuvent choisir leur destination. Adeline Savy, directrice de cabinet de la préfecture d'Île-de-France.
On en fait régulièrement, toutes les semaines, depuis plusieurs années, on envoie des personnes effectivement en province. Pourquoi en province? Parce que le système d'hébergement d'urgence à Paris, il est extrêmement saturé. On le voit bien, la concentration des publics en situation de rue, elle est forte à Paris.
Ces évacuations interviennent dans un contexte de montée du sentiment anti-immigré en France, ce qui a renforcé la popularité du parti d'extrême droite, le Rassemblement National. La mairie de Paris, tenue par des socialistes, accuse les autorités nationales de ne pas fournir suffisamment de solutions aux migrants. Lamia El Haraj est adjointe à la maire de Paris.
Faire des propositions en mettant à disposition certains de nos gymnases, en mettant à disposition un certain nombre de nos équipements municipaux. On l'a déjà fait cet hiver, on le fait chaque hiver, on le fait tout le temps. Et à un moment, c'est à l'État de prendre ses responsabilités.
Pour l'heure, ces migrants se verront proposer un hébergement dans les environs de Paris, mais ils pourraient bien se retrouver à nouveau à la rue une fois les Jeux terminés.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, c'était Rosine Mounezero, à la mise en onde, Lionel Namila Ganima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.